Bonjour mes frères et mes sœurs. Avez-vous foi en Dieu? Une foi sincère, une foi convaincante. Êtes-vous vraiment sûr que ce que Dieu promet dans la Bible, il l'accomplit? Nous savons qu'il peut l'accomplir, mais est-ce qu'il l'accomplit pour nous, pour chacun de nous? Il y a des directives dans la Bible, il y a des enseignements, il y a des versets qui nous permettent de comprendre ce qu'est la foi. Je ne parle pas de cela. Je parle maintenant d'approfondir votre foi, de nous rapprocher davantage de Dieu. Que faut-il faire? Comment y arriver? La plupart du temps, nous nous éloignons de Dieu par la corruption qui se montre autour de nous. Car en ce moment, il y a toujours Satan le diable qui voudrait nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. D'autre part, Dieu, qui est beaucoup plus fort que Satan, nous donne toute la force dont nous avons besoin, toute l'aide dont nous avons besoin pour nous rapprocher de lui. Alors, cette différence entre les deux forces, ça fait ce que nous appelons la foi en Dieu, qui nous permet de rejeter les tentations et les astuces de Satan. Il y a en ce moment beaucoup de corruption. Si vos pensées sont dirigées vers la corruption, si vos pensées vous éloignent du Christ, de Dieu, de la Bible, dans ces cas-là, évidemment, vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu. Nous savons tous comment l'apôtre Paul définit dans son épître, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, ce que c'est que la foi. Nous savons presque par cœur, mais regardez voir ce que l'apôtre Paul dit. Mais ce qu'il dit, il faut maintenant lire avec le reste de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Paul a défini la foi, et ça c'est très important, en disant que la foi est l'assurance. Je m'arrête car c'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est que vous êtes sûr. Vous êtes sûr de quoi? L'assurance de ce qu'on espère. Intéressant. Donc, il y a une grande différence entre la foi et l'espérance. Si j'espère quelque chose, si ce n'est pas encore arrivé, ça c'est pas la foi. Car l'apôtre Paul dit, la foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration? Mais démonstration signifie je la vois. Autrement dit, lorsque j'ai foi, je n'ai pas besoin d'espérer. Avant la foi, je peux espérer. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette différence. Vous priez avec espérance et vous avez l'espoir que Dieu vous répondra. C'est juste. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la démonstration. Autrement dit, avant même que vous receviez ce que vous demandez, la foi est déjà l'assurance, la parfaite connaissance que Dieu a déjà répondu à votre question. Je sais, c'est très difficile. Je sais, ce n'est même pas possible humainement parlant. Mais pourtant, nous ne parlons pas maintenant du point de vue humain, mais du point de vue de Dieu. La foi, rappelez-vous, c'est la démonstration des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore. J'ai souvent parlé de la foi. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur ce chapitre-là. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'autres choses en ce qui concerne la foi. Laissez-moi vous donner un exemple. Certains d'entre nous sont malades et sont guéris. D'autres sont malades et ne le sont pas. Ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Supposons que vous-même, vous ayez un ami très, très cher. Un ami que vraiment vous aimez et vous ne vouliez pas que vous le perdiez. Bon, c'est logique, c'est juste. Et vous priez Dieu nuit et jour, vous suppliez, vous mettez tout votre cœur dans vos prières. Et vous demandez à vos autres amis de prier pour cet ami-là. Et vous espérez, vous faites votre part, et voilà qu'un jour, votre ami meurt. Alors, comment expliquer cela? Où est la foi? Vous avez prié, vous avez demandé ce que Dieu dit, vous avez fait votre part en ce qui concerne donc la foi. Est-ce une question de foi ou d'autre chose? Eh bien, il y a plusieurs façons d'expliquer cela. Voyez-vous, une chose est certaine. Tôt ou tard, nous mourrons tous. Mais ça, ce n'est pas la question. La question, c'est que vous, vous aviez un ami qui était malade et pour qui vous priez, et voilà qu'il est mort. Et vous aviez demandé pourtant avec foi, vous vouliez savoir ce qu'on peut faire, vous avez peut-être même jeûné. Pourquoi cet ami est-il mort? Et quelle doit être votre attitude face à une tragédie pareille? C'est une tragédie, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce genre de foi, ce genre d'espérance même, je dirais, pour continuer à aller de l'avant sans jamais vous en détourner, sans jamais vous détourner de la vérité, sans jamais douter de Dieu, sans jamais perdre foi? C'est ça mon sujet. Parce qu'il y a, franchement parlant, beaucoup de raisons pour lesquelles nous nous manquons de foi, nous manquons de foi dans ce sens que nous disons « à quoi bon prier si Dieu ne nous répond pas ?» Et d'autre part, nous savons que l'apôtre Paul a dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Voyez-vous, les apôtres du Christ avaient de la foi. Mais les apôtres du Christ ont souffert. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont même perdu la plupart d'entre eux leur vie. Ils ont été torturés, massacrés, jetés en prison. Alors, comment expliquer cela? Comment nous rapprocher de Dieu? Eh bien, la réponse est simple. Regardez l'exemple des apôtres. Ils ont souffert sans jamais douter de Dieu. Ils sont morts dans leur foi et ils seront un jour dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, le secret, c'est toujours la même chose. Lorsque les circonstances sont hostiles, lorsque les circonstances sont contre vous, ne vous découragez pas. Ne dites pas que Dieu ne vous a pas répondu, car Dieu répond à toutes les prières. Seulement, il répond à sa façon. Votre devoir, votre part, c'est de ne pas en douter vous-même et continuer dans cette voie, c'est-à-dire dans la voie de la détermination de savoir que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu vient toujours à votre secours. Je répète, prenez l'apôtre Pierre. Comment est-il mort? D'après la tradition, il a été presque scié en deux, je ne sais pas, ou bien massacré. De toute façon, Pierre est mort d'une mort terrible. Prenez l'apôtre Paul. Comment est-il mort? Voyez-vous, ce sont des gens qui avaient la foi, qui ont écrit concernant la foi. Et pourtant, ils ont été victimes, comme on dit, de la cruauté humaine, de ce que les hommes peuvent faire et de ce que les hommes font. Notre part, à nous tous, c'est d'étudier la Bible, de chercher dans la Bible des exemples, comment des gens qui, malgré leurs souffrances, ont maintenu leur attitude bonne envers Dieu. Comment vraiment avancer dans cette directive que Dieu nous donne pour pouvoir arriver au but. Car c'est ça qui compte. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous savons tous, ce monde où nous vivons ne va pas durer longtemps. Ce monde où nous vivons est actuellement sous la maîtrise de Satan, le diable, avec la permission de Dieu. Ce monde où nous vivons ne va pas durer longtemps, non, pas du tout. Car bientôt le Christ arrivera pour mettre fin aux souffrances humaines. Mais entre-temps, nous sommes toujours vivants. Entre-temps, nous avons toujours cette lutte. Entre-temps, nous avons toujours cette espérance, cette foi même, afin que la plupart du temps, nos prières soient acceptées devant Dieu, soient vraiment bonnes et qu'elles portent du fruit. C'est à cet égard que je veux justement parler aujourd'hui. Je vais parler non pas de la foi proprement dite, mais tout ce qui appartient en quelque sorte à la foi, toutes les autres choses qui vont ensemble avec la foi. Notez-le. L'apôtre Pierre, dont je vous ai parlé, a écrit dans sa seconde épître, chapitre 1, des attributs de la foi. Autrement dit, il y a des attributs qui doivent se joindre l'un à l'autre pour que votre foi soit complète. Notez-le. Mais avant de commencer peut-être cette explication, notez comment l'apôtre Pierre définit à sa façon la raison pour laquelle nous devons ajouter à notre foi des attributs. 7, pour être précis. Laissez-moi vous commencer cette définition par la raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous dit pourquoi ajouter à notre foi ces attributs. Notez-le. Deuxième épître Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4, il dit « Comme sa divine puissance, on parle de l'éternel Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. » Voyez-vous, il ne parle pas de la mort. Il parle par la divine puissance de Dieu. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc nous devons être joyeux. Nous devons savoir que Dieu est pour nous. Que tout ce que Dieu nous dit, tout ce qu'il nous recommande de faire, c'est pour notre vie. Ensuite, et à la piété. Voilà un mot intéressant. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la piété. On parle de religion, on parle de ceci ou de cela, mais la vraie piété, dont je vous parlerai dans quelques instants, c'est quelque chose de supérieur. C'est du domaine, je dirais, spirituel. Donc, la piété appartient à la religion pure, dont je vais vous parler. Donc, tout ce que Dieu dit dans la Bible contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de quoi ? De celui qui nous a appelés, appelés pourquoi ? Par sa propre gloire et par sa vertu. Voyez-vous, déjà, ça c'est le commencement, ça c'est l'introduction, ça c'est la préface. Autrement dit, pour accomplir ce que Dieu dit, pour comprendre ce qu'est la foi et en même temps, quels sont les attributs de la foi, nous devons savoir que cette connaissance nous rapproche de Dieu et nous permet d'arriver au but. Car nous sommes nés pour être un jour nés dans la famille divine. Donc, tout ça, voyez-vous, va ensemble pour nous aider à comprendre comment vraiment arriver au but. L'apôtre Pierre dit qu'il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Une chose est certaine. Le Christ peut tout. Le Christ aime nous tous. Le Christ veut que tous parviennent au salut. Ça, c'est certain. Nous devons avoir foi en cette promesse divine. Tous ne parviendront pas jusqu'à la fin, car tous ne vont pas suivre les directives de l'éternel Dieu. Mais revenons à vous et à moi. Nous sommes membres de l'Église de Dieu. Nous devons fuir la corruption. Nous devons fuir le péché. Nous devons en toute chose nous mettre à genoux devant Dieu et lui demander de nous aider afin que nous puissions chasser les mauvaises pensées, les mauvais esprits, et être convaincus par la foi. Je répète, la foi est la détermination, la définition, la preuve, la démonstration de ce qu'on espère avoir. Donc, avec cette connaissance, allons voir un peu plus loin, cette fois-ci dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, pour voir vraiment ce qu'il faut faire pour avoir ces attributs qui doivent être joints à la foi. Je continue. L'apôtre Pierre écrit, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, lesquels, c'est-à-dire les connaissances, lesquelles nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça, c'est notre difficulté d'une façon générale en ce bon monde. Les gens ne croient pas en Dieu. Les gens n'ont pas foi en Dieu. Les gens ne pensent pas que ce que Dieu a promis dans la Bible, il peut aussi l'accomplir et il veut l'accomplir. Ça, c'est la différence. Si vous êtes membre de l'Église de Dieu, vous devez savoir que tout ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Un point, c'est tout. Pas d'exception. Si votre cas est différent, pensez-vous, ce n'est pas le cas. Nous sommes tous le même. Nous avons tous l'amour de Dieu. Nous avons tous été créés pour que nous puissions un jour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre continue. Sa seconde épître, je répète, chapitre 1, il dit que ces choses assurent les choses précieuses, afin que, dit-il, par elles, par ces promesses, vous deveniez participants. Regardez-moi ce mot. Voyez-vous, je ne joue pas avec les mots, je joue avec la définition des mots. Que signifie participant? Si je participe à quelque chose avec vous, c'est que nous faisons ensemble quelque chose. Donc, de quoi l'apôtre Pierre parle ici? Participant de quoi? Participant de la nature divine. Tiens, voilà la vérité. Voilà une vérité qui est révélée dans la Bible. Donc, si nous faisons ce que l'apôtre Pierre écrit ici, nous deviendrons participants de la nature divine. Autrement dit, nous serons enfants de Dieu. C'est là le but de la vie, voyez-vous. Ça se révèle à nouveau. Afin que, dit-il, par elle, par ces choses précieuses, vous deveniez participants de la nature divine et en fuyant de la corruption. Voilà encore une autre raison, une autre façon de fuir le péché. Si nous devons être participants de la nature divine, dans ce cas-là, nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde. Et d'où vient cette corruption? D'où vient ce sentiment en nous qui nous dirige vers la corruption? La convoitise. Il dit, dans le monde, par la convoitise. Voyez-vous, ça c'est l'introduction. Autrement dit, avant de nous donner les 7 attributs qui doivent être joints à la foi, l'apôtre Pierre nous dit d'abord, fuyez la corruption, ensuite, rapprochez-vous de Dieu, et ensuite, dit-il, soyez sûr que vous faites votre part. Et nous devons faire notre part. Il y a des conditions pour augmenter notre foi. La plupart des gens sont paresseux. On ne fait pas les efforts nécessaires pour arriver au but. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes vraiment enfants de Dieu, appelés pour arriver au but, tâchez de faire des efforts nécessaires pour croître dans la grâce et la connaissance chaque jour. C'est là la condition. Beaucoup d'entre nous, nous sommes paresseux. Beaucoup d'entre nous, nous aimons mieux nous amuser que nous mettre à genoux ou étudier la Bible ou faire preuve de charité. Voilà pourquoi certains d'entre nous sont arriérés ou en arrière. Alors, maintenant commençons. Je viens toujours petit à petit au but. Mais laissez-moi mettre encore la précision dans ce que je dis. Pour arriver au but, nous devons absolument nous éloigner de la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose à laquelle nous n'avons pas le droit et qui nous empêche de nous approcher de Dieu. La convoitise est la base même de la corruption de nos désirs charnels. Continuons. Alors, l'apôtre Pierre, qui parle de la foi, il dit, à cause de cela, verset 4 toujours, deuxième épître, chapitre 1, il dit, à cause de cela, dit-il, faites tous vos efforts. Donc, voyez-vous, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas en vous croisant les bras que vous arriverez à comprendre ou à pratiquer ce que l'apôtre Pierre vous recommande ici sous l'inspiration divine. Et c'est là encore une autre difficulté que nous avons, la plupart d'entre nous. Nous ne faisons pas les efforts. Nous attendons que les autres fassent les efforts. Nous voulons que Dieu fasse pour nous ce que nous voulons sans que nous y travaillions nous-mêmes. Vous n'arriverez pas au but si vous ne faites pas votre part. Et ça, c'est la tragédie en ce qui concerne certains d'entre nous. On est paresseux de par nature humaine. On ne veut pas vraiment faire face à l'adversité avec courage et dire non, je vais de l'avant, quel que soit le prix. Donc, j'ai foi en Dieu, quelles que soient les circonstances qui me feront peut-être décourager. Ne comptez pas sur des raisonnements pareils. Vous dites, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Autrement dit, c'est déjà fait dans l'Esprit de Dieu. Alors, pour revenir maintenant à l'apôtre Pierre, cette fois-ci, je vais commencer le sermon par ce que j'ai en tête comme les sept attributs. Il dit, au verset 4, « À cause de cela, dit-il, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, quoi ? La vertu. » Autrement dit, la foi n'est pas complète si nous ne joignons pas à la foi la vertu. Mais c'est quoi la vertu ? Une fois encore, ce sont toujours les mêmes questions, voyez-vous. La vertu, comment la définir ? La définir comme les autres la définissent ? Non. La vertu, comme Dieu l'a définie. La vertu, c'est l'honnêteté. La vertu, c'est la fidélité. La vertu, c'est l'amour. La vertu, c'est les qualités en vous qui font de vous un véritable chrétien. Selon le dictionnaire, si vous voulez, là encore, parfois les dictionnaires donnent de bonnes définitions. Selon le dictionnaire, la vertu est une qualité excellente. C'est normal. C'est une qualité qui nous vient de Dieu. Une force de caractère accompagnée de courage. J'aime ça. Une force de caractère accompagnée de courage. Tout le monde peut espérer. Mais si vous pouvez espérer avec une force accompagnée de courage, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous devez faire face à l'adversité en disant « Non, je ne vais pas faiblir. Non, je ne vais pas abandonner. Je vais aller de l'avant car je sais que Dieu est avec moi. » Voilà la vertu. C'est cette définition assurante de la foi que l'apôtre Pierre veut que nous puissions vraiment joindre à notre foi. La vertu, voyez-vous, aujourd'hui les hommes ne la connaissent pas. Les hommes appellent vertu par d'autres noms, mais vraiment, si vous comprenez la Bible, cette définition doit être conforme à ce que Dieu dit dans la Bible. La vertu est toujours accompagnée de mettre en pratique ce que Dieu nous recommande de faire. Eh oui! Autrement dit, Dieu nous dit comment être bon, comment être juste, comment nous approcher de Dieu. Dans ce cas-là, si vous faites preuve, si vous appliquez, si vous exercez ces qualités, vous êtes vertueux. Tous les enseignements bibliques nous montrent ce qu'est la vertu. Sans jamais vous en détourner de la bonne voie, sans jamais, voyez-vous, douter de Dieu. Comme ce cas de cet ami qui est mort, malgré vos prières, malgré vos instances, malgré toute la foi que vous aviez, maintenez votre foi. Dieu sait, Dieu peut tout faire. Il est fort possible que cet ami qui est mort soit dans le royaume avant vous, pour ainsi dire. La vertu, honnêtement parlant, ce n'est pas la façon humaine d'agir, c'est la façon dont Dieu nous recommande d'agir. Humainement parlant, voyez-vous, nous ne savons pas ce qui est juste et ce qui est mauvais. Ce sont les définitions que nous donnons nous-mêmes. Si vous cherchez ce qui est juste et ce qui est mauvais, cherchez dans la Bible la définition de ce terme. Les apôtres du Christ ont fait preuve de la vertu. Eh oui, ils sont morts dignement. Lorsque l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre et d'autres sont morts, ils sont morts dans le courage. Autrement dit, ils sont morts en faisant preuve de vertu. Mais là, je répète, ce n'est qu'une partie, un des attributs qui a besoin d'être joint à la foi. Je reviens maintenant à l'apôtre Pierre. Car, voyez-vous, ça c'est extrêmement important. La foi n'est pas complète si elle n'est pas jointe par certains attributs, dont la première, c'est la vertu. La vertu, je ne vais pas prendre le temps, vous n'avez qu'à chercher davantage dans la Bible. Voyez-vous, il y a tellement d'apôtres, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de saints dans la Bible, dont les exemples sont donnés dans la Bible et qui nous permettent de comprendre ce qu'est la vertu. Par exemple, Ruth, dans l'Ancien Testament, était une femme vertueuse. Esther, la reine, était une femme vertueuse, et ainsi de suite. La mère du Christ était une femme vertueuse. Alors, si vous prenez ces exemples, vous verrez exactement la définition de la vertu telle que la Bible vous la décrit. Ensuite, voyez-vous, c'est pas tout, il y a 7 attributs. Dont le premier, c'est, nous avons vu la vertu. L'apôtre Pierre ajoute, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Voilà que ça commence. Science de quoi? C'est quoi la science? Cela demande encore du travail parce que nous devons faire des efforts. Si l'humanité aujourd'hui se réveille un peu, et elle a besoin d'être réveillée, elle comprendrait que la science que Dieu nous recommande d'avoir, ce n'est pas la science humaine. Ce ne sont pas ces connaissances qui augmentent presque chaque 5 ans. Eh oui, parce que la connaissance humaine, dernièrement, augmente chaque 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas. De toute façon, si vous regardez en arrière il y a 10 ans, ce que nous connaissions à l'époque il y a 10 ans, ce n'est rien à comparer à ce que nous comprenons aujourd'hui. Voyez-vous, la science humaine ne vaut pas grand-chose. La connaissance humaine ne vaut pas grand-chose. Parce que tout ce que nous appelons science, tout ce que nous appelons connaissance, tout ce que nous appelons instruction, mettons, tout cela est basé sur nos sens physiques, les 5 sens physiques. À part ça, nous n'avons pas de connaissance. La connaissance nous vient donc par le développement, par la croissance de nos 5 sens physiques. Et ça, ce n'est pas la connaissance dont la Bible parle comme attribut en ce qui concerne la foi. Si vous regardez ce que les hommes ont fait, de ce qu'ils ont découvert, vous comprendrez que cette connaissance-là est mauvaise. Regardez voir la décomposition de l'atome et ce que les hommes en ont fait. Regardez voir ces guerres, ces inventions militaires et ce que les hommes en ont fait. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, la connaissance, ou la science si vous voulez, dont parle la Bible, ce n'est pas du tout ce que les hommes pensent, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance des instructions divines. C'est la connaissance des lois de Dieu et leur mise en pratique. Autrement dit, la foi que nous avons et dont parle l'apôtre Pierre doit être accompagnée par la vertu et par la science. La science qui nous permet de progresser dans la connaissance de la parole divine. C'est pourquoi Pierre a encore dit que nous devons croître dans la grâce et la connaissance. Ça, c'est ça, la science. Mais ça vient, je répète, par l'étude de la Bible, par nos prières, par nos efforts d'être véritablement chrétiens. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous, vous qui êtes dans l'Église, nous qui sommes dans l'Église, que la Bible est le fondement de toute connaissance qui nous permet d'arriver au but. C'est ça. C'est cela dont nous avons besoin. La Bible est le manuel qui nous permet de réussir. C'est la base même de tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but. Lorsque nous suivons les directives de la Bible, lorsque nous savons que Satan est là pour nous séduire, lorsque nous nous maintenant sur la bonne voie, alors petit à petit notre esprit s'ouvre à la connaissance, la véritable connaissance dont parle la Bible. Voyez-vous, si vous êtes certain, si vous êtes sûr que Dieu tient ses promesses, dans ce cas-là, vous n'aurez peur de rien. Comme l'apôtre Jean écrit, 1 Jean chapitre 4, il dit « L'amour parfait bannit la crainte. » Non, vous n'aurez pas peur de quoi que ce soit. Et c'est là encore une autre qualité. Si vous êtes véritablement chrétien, vous n'aurez peur de rien. Vous ne craindrez rien car Dieu est avec vous. Le Christ a dit « Prenez courage, je suis avec vous, je ne vous abandonne pas. » Voilà la connaissance dont nous avons besoin. Ce sont des choses, voyez-vous, extrêmement importantes, afin que nous puissions, nous, savoir ce qu'est vraiment cette connaissance. Vous savez, je me rappelle, j'ai dit, je pense, par le passé, ma rencontre avec une dame très comme il faut en Suisse, il y a longtemps, c'était une femme comme il faut, vraiment, appartenait à la nobilité, si vous voulez, très riche, très élégante, très instruite. Elle écoutait mes émissions sur Radio Luxembourg. Alors, un jour, elle m'a demandé rendez-vous et je suis allé vers elle, à Bruxelles. Monsieur Appartient, me dit-elle, je vous aime bien, vous êtes bien, mais tout ce que vous dites, c'est pour les autres. Je dis, comment? Il dit, voyez-vous, tout ça, je les connais. Je n'ai pas besoin d'étudier la Bible pour comprendre ce que c'est que la loi divine. Je fais ce qui est bien de par ma nature. Intéressant. Je comprends parce que c'était une femme instruite, bien instruite. Elle était cultivée. Donc pour elle, la connaissance des commandements n'était pas du tout importante. Elle dit, ça vient automatiquement. Je dis, madame, qu'entendez-vous par ça vient automatiquement? Pour vous peut-être parce que vous avez été bien éduquée. Mais prenez l'exemple d'un voleur. Le voleur n'a pas votre éducation. Pour lui, prendre quelques sous, bien quelques dollars, ou bien euros si vous voulez, de quelqu'un qui est très riche, quel mal y a-t-il à cela? Il dira, écoute, cet homme-là n'a pas besoin de ces 100 euros, mettons. Pour moi, c'est une question de vie et de mort. Donc, il peut voler sans se sentir coupable. Il me regarde, sans répondre. Ensuite, je continue, je dis, madame, je dis, prenez le mensonge. Pour vous, vous avez une bonne éducation de par vos parents, je sais, et vous ne voulez pas mentir. Mais d'autres en ce bon monde, ils savent que c'est par le mensonge qu'ils peuvent avancer. Alors, pour eux, c'est permis de mentir. Je ne pense pas que je l'ai convaincu. Parce que son éducation était un peu différente. Mais le fait est que, voyez-vous, nous ne savons pas, nous, humainement parlant, ce qui est juste et ce qui n'est pas. Juste. Nous ne pouvons pas définir vraiment ce que c'est que l'honnêteté. Nous ne savons pas ce que c'est que l'adultère. Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens dans mon ministère pour qui l'adultère n'a pas de raison d'être défendu. Ils disent, moi je ne suis pas marié, elle n'est pas mariée ou il n'est pas marié, il n'y a pas de mal. Voyez-vous, ça c'est le raisonnement humain. Ce raisonnement humain nous conduit à la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que nous devons nous ajouter à notre foi la connaissance, la science. C'est cette science dont nous avons besoin. Je répète, si vous n'avez pas ce genre de foi en Dieu, il est grand temps que vous puissiez vraiment vous mettre à genoux et à demander à Dieu, écoute Dieu, je veux faire ta volonté. Je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, mais j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, je te prie. Ayez foi dans tout ce que vous demandez, mettez-vous à genoux et demandez ceci avec force. Dieu vous répondra toujours. Peut-être parfois sa réponse tarde, mais soyez patient. Je répète, le raisonnement de cette femme honnête, je dis honnête parce qu'elle était vraiment, elle savait ce que c'était, entre guillemets, l'honnêteté, ou bien l'obéissance aux lois. Pour elle, le mensonge était quelque chose qu'il ne fallait pas qu'elle fasse, ou le vol. Mais tous n'ont pas la même façon de raisonner. Tous n'ont pas la même éducation, si vous voulez. Dieu a dit dans Osée chapitre 4, le prophète Osée, verset 6, notez cela. C'est vraiment intéressant. Il dit « Mon peuple », c'est Dieu qui parle. Il parle de son peuple, du peuple qu'il a appelé. Ce peuple-là qui s'est détourné de Dieu. Il dit « Mon peuple est détruit ». Nous le sommes aujourd'hui parce qu'il lui manque quoi ? La connaissance, la science dont parle l'apôtre Pierre. Ensuite, Dieu nous donne un avertissement. Il dit « Puisque tu as rejeté la connaissance ou la science, si vous voulez, je te rejetterai aussi. » C'est ce qui est arrivé. « Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » C'est quoi ? Qu'est-ce qui signifie ? Que signifie « tu seras dépouillé de mon sacerdoce » ? C'est la promesse de la vie éternelle que nous avons tous. Donc si nous rejetons cette science, cette connaissance, nous n'arriverons pas au but final. Nous serons dépouillés de notre appel, de notre sacerdoce. Ensuite, Dieu ajoute encore d'autres choses. Lorsque vous regardez autour de vous, vous dites « Où est Dieu ?» Je ne parle pas de vous, mais d'une façon générale, des hommes, de l'humanité. Les gens disent toujours « Où est Dieu ? Pourquoi ces souffrances ?» La réponse est ici. Dieu dit « Puisque », toujours Osée 4, verset 6, « Puisque tu as rejeté ou oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Voilà où nous en sommes. Vous demandez pourquoi cette tristesse, pourquoi ces calamités, pourquoi cette tragédie, pourquoi ces guerres ? Parce que nous avons oublié Dieu. Et Dieu nous a oublié, nous et nos enfants. Voyez-vous, ainsi vous pouvez comprendre petit à petit comment arriver au but. La connaissance dont Dieu parle dans la Bible, c'est la connaissance de tout ce qui est bon, de tout ce qui est juste, du point de vue humain. Non pas humain, spirituel. Vous savez, je voulais vous parler, c'est pas la peine d'en prolonger, mais regardez voir cette connaissance humaine, cette science humaine. Certes, nous n'avions pas il y a 100 ans tout ce que nous avons aujourd'hui. Ces inventions technologiques, c'est fantastique. Nous n'avions pas non plus la connaissance comment décomposer l'atome. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est l'atome. Nous avons cette science, et cette science nous a permis de bombarder les villes au Japon, Hiroshima et Nagasaki, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça la science. C'est ça l'invention humaine. Voyez-vous, Einstein qui a été à la base même, ou bien à la racine de cette invention en ce qui concerne l'atome ou la décomposition de l'atome. Savez-vous ce qu'Einstein a dit ? Il avait dit, si j'avais su que les hommes auraient fait de mes inventions une bombe atomique, j'aurais préféré être plombier. Eh oui, ce sont ses paroles à lui. Il ne voulait pas que ces inventions nous mènent à la bombe atomique. Il aurait préféré être plombier. Hélas, ce n'était pas le cas. Je continue. Prenez le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, dans son écrit. Il dit, on t'a fait connaître. Voyez-vous, cela encore c'est clair. Ces révélations sont très claires. Michée écrit, on t'a fait connaître, ô homme, vous, moi, nous tous, ce qui est bien, bien au point du point de vue humain, et ce que l'Éternel demande de toi. Voilà, j'ai rencontré tellement de gens qui disent, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? Voilà la réponse. Cette question est posée par le prophète Michée. Chapitre 6 dans son livre, verset 8, il dit, voilà ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Voilà. Pratique la justice, divinement parlant. Prenez la Bible et tâchez de comprendre ce que c'est que la justice. Non pas la justice humaine qui n'est pas vraiment basée sur des fondements solides. la justice divine. Dieu aime tout le monde. Dieu aide tout le monde. Dieu répond à tous. Si nous nous tournons vers lui avec foi. Dieu veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Voilà la justice. Dieu veut que nous donnions même à manger à notre ennemi. Voilà la justice. Il dit, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Oh, quelle belle phrase. Quelle belle promesse. Combien de gens y a-t-il de par le monde et dans l'Église, j'ajouterai, qui aiment la miséricorde. Avez-vous, vous qui m'écoutez, des différends, des disputes avec quelqu'un qui vous soit dans votre entourage? Est-ce que vous gardez la rancune contre quelqu'un qui vous a fait du tort? Si vous avez ça en tête encore, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que la miséricorde. La miséricorde signifie, vous avez oublié, vous avez pardonné. C'est ce que Dieu fait. Dieu est miséricordieux. S'il ne l'était pas, vous ne seriez pas ici aujourd'hui, moi non plus. Donc, voilà ce que Dieu demande de nous. Que nous aimions notre prochain, et que nous pratiquions la justice, et que nous aimions donc la miséricorde, le pardon, et que tu marches, toujours verset 8, tu marches, quoi ? Humblement avec Dieu. Formidable. Vous savez, ce mot humblement, humble, humilité, ça vient toujours à la Bible. Dans tout ce que vous faites, mes frères et mes sœurs, tâchez de savoir que vous n'êtes rien et que cette humilité dont le Christ a fait preuve en venant mourir pour nous, vous avez besoin de ce genre d'humilité. Faites des efforts, parce que vous n'êtes rien, vous n'avez rien, votre connaissance n'est rien, ni la mienne non plus. Ce qui compte, c'est ce que Dieu nous révèle dans la Bible. J'ai fait des sermons sur l'humilité. La base même de la gloire à venir, c'est notre humilité à présent. Et oui, nous devons être humbles maintenant. Car nous n'avons vraiment aucune raison pour ne pas être humble. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? Qu'avez-vous que vous pouvez faire de par vos efforts seuls? Rien. Nous avons besoin de Dieu, de son aide, pour accomplir ce que nous accomplissons. Voilà pourquoi l'humilité, c'est la base même de la gloire à venir. Voilà ce que Dieu demande de nous. Je répète, il est question ici de joindre certains attributs à notre foi. Deuxièmement, vous citez l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. 1 Corinthiens 1, verset 19. Il dit, « Aussi dit-il, est-il écrit, c'est Dieu qui parle, je détruirai la sagesse des sages. » Voilà ce que c'est que l'orgueil des hommes. Voilà ce que c'est que la sagesse humaine. Voilà ce que c'est que la connaissance des hommes. Il dit, Dieu détruira la sagesse des hommes. J'anéantirai, dit-il, l'intelligence des intelligents. Nous n'avons pas besoin de comprendre comment diviser l'atome. Nous avons besoin de comprendre comment comprendre la loi divine et comment la respecter. Du reste, ce verset dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, se répète ou se retrouve plutôt dans le livre d'Ésaïe. Laissez-moi le citer. Ésaïe 29, verset 14. Là, vous avez déjà une idée plus complète. Ésaïe 29, verset 14. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je frapperai encore ce peuple. Voilà ce qui se passe. Par des prodiges et des miracles. La sagesse, dit-il, de ces sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Commencez-vous à comprendre ce que Dieu attend de nous. Rappelez-vous que nous devons toujours examiner toutes choses. Nous devons avoir foi en Dieu, certes, mais la foi dont il est question doit être accompagnée par d'autres attributs. Les attributs que je vous cite, cet attribut dont l'apôtre Pierre parle. Continuons. Il parle, comme vous savez, d'ajouter de joindre la foi à la vertu la science, et à la science, dit-il, la tempérance. Tiens, c'est encore intéressant. La tempérance, c'est quoi la tempérance? La plupart du temps, nous ne sommes pas nous ce que c'est que la tempérance ou la modération en toute chose. Nous n'avons pas le contrôle de nous-mêmes, la maîtrise de soi. En toute chose, nous avons besoin de maîtrise de soi. Nous devons savoir que tout ce que Dieu a créé et qu'il est bon pour nous, nous devons en jouir, mais quand même, il faut faire preuve de maîtrise de soi. La plupart du temps, les gens ont un gros appétit. Ils ne savent pas comment arrêter de manger, comment arrêter de boire. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais c'est la question d'aller à l'excès. Voilà pourquoi nous, vous, moi, nous tous, nous avons besoin de contrôler nos appétits. En toute chose, si nous sommes proches de Dieu, nous devons suivre ses directives. Nous devons résister à la tentation humaine, ou bien même à nos désirs charnels. La maîtrise de soi est contraire, malheureusement, si vous voulez, à la nature humaine. Nous avons le désir d'aller à l'excès. Du reste, Satan nous pousse à aller vers l'excès. Regardez voir combien de gens aujourd'hui meurent ou sont malades à cause de tels excès. Combien de temps ça a pris, surtout en ces derniers temps, pour que les gouvernements interdisent le tabac. Entre-temps, des centaines, voire des millions de gens qui sont morts à cause des effets néfastes du tabac. Voilà. Si nous avons foi en Dieu, mes frères et mes sœurs, je répète, nous devons suivre ces directives. Nous devons exercer la maîtrise de soi. Être courageux, savoir résister, savoir dire non. Il y a des gens qui disent en plaisant, je résiste à tout. Je résiste à tout, sauf à la tentation. Et c'est peut-être amusant, mais c'est pas gai. Nous devons résister à tout, un point, c'est tout. Si ce n'est pas conforme à la volonté divine. Résister surtout à Satan le diable. Résister à ses astuces. Résister aux mensonges. Le premier homme, Adam et Ève, n'ont pas résisté à Satan. Ils ont voulu croire à Satan car le mensonge satanique était plus agréable à eux d'entendre que les promesses divines. Ainsi de suite, la plupart du temps, Satan voudra que vous puissiez croire à ce que lui il dit parce qu'il vous ment, il mentira en vous offrant des choses qui ne sont pas vraies. Tandis que Dieu vous offre ce qui est juste, par exemple, ce qui est éternellement vrai, autrement dit, la vérité en ce qui concerne la vie éternelle, que vous arriverez à vraiment obtenir par l'obéissance aux commandements de Dieu et non pas aux mensonges sataniques, pas du tout. Et pourtant, je dis, les hommes ne savent pas ça. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas la définition du mot tempérance ou bien modération. Si nous avons Dieu en tant que notre maître et sauveur, si nous suivons ses directives et si nous avons de la maîtrise de soi, Satan ne pourra jamais nous séduire. Là encore, je parle à beaucoup de gens. J'ai vu certaines personnes qui avaient peur de Satan. Eh bien, mes frères et mes sœurs, ne craignez pas Satan. Satan ne peut absolument rien faire si vous êtes proche de Dieu. Et ça, c'est une garantie absolue, car c'est Dieu qui dit. Mais lorsque vous vous éloignez de Dieu, dans ce cas-là, vous avez raison de craindre Satan. Car il va vous séduire. Ce monde, à présent, est sous la séduction de Satan. Notez ce que l'apôtre Jacques, c'est-à-dire le frère du Christ, a écrit en ce qui concerne comment résister à Satan, comment résister à la séduction de Satan. Et il dit dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8, là encore, voilà des instructions importantes. Les gens disent, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment je peux plaire à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà les réponses. Je tâche de vous donner les réponses de par la Bible. Jacques écrit, Jacques 4, versets 7 à 8, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Comment est-ce que je peux me soumettre à Dieu? Je peux me soumettre à Dieu en faisant sa volonté. C'est tout. C'est juste. C'est simple. Simple, tout dépend. Tout dépend de votre attitude. Donc, si je fais ce que Dieu me dit dans la Bible, si j'obéis à ses commandements, je me soumets à lui. Et Jacques ajoute, résistez au diable. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable fuira loin de vous. Si le diable fuit loin de vous, de moi, pourquoi craindrais-je le diable? La condition, c'est que je me soumette à Dieu. Voilà, essayez-le. Et je vous parle sérieusement, vous savez. Parce que j'ai vu des gens qui ont peur de Satan. N'ayez jamais peur de Satan. Pourtant que vous soyez sous la protection divine, Satan ne peut pas franchir cette barrière qui est autour de vous, dressée par Dieu, par le Saint-Esprit. Ensuite, Jacques continue au verset 8 de ce chapitre-là, chapitre 4, il dit « Approchez-vous de Dieu. » Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Je m'approche de Dieu d'abord en connaissant Dieu, en apprenant ses désirs, en apprenant ses commandements. Je m'approche de Dieu en mettant en pratique ce qu'il me dit de mettre en pratique. Et qu'est-ce qui se passe? Si je m'approche de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Voilà une promesse fantastique. Voulez-vous que Dieu soit avec vous, que Dieu s'approche de vous, que Dieu vous aide dans toutes choses? Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Mais comment? Voyez-vous, c'est comme ça que je lis personnellement la Bible. Parce que mon esprit me pousse à savoir comment, que dois-je faire? La Bible répond à toutes ces questions. Jacques écrit, nettoyez vos mains. Symboliquement parlant, vous savez ce que c'est. Autrement dit, éloignez-vous du péché. Nettoyez vos mains, dit-il. Pécheur, voilà, pécheur, nous savons ce que c'est. Fortifiez-vous, fortifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Souvent nous sommes irrésolus. Nous n'avons pas cette conviction dont parle l'apôtre Pierre. Nous devons avoir cette conviction que ce que Dieu dit, il l'accomplira. Je continue. La seule façon de s'approcher de Dieu, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur honnête, et faire la volonté de Dieu. Je répète, la seule façon de s'approcher de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la possibilité de nous approcher de Dieu. Dieu nous donne la capacité, la force, la puissance de lutter contre le mal, contre Satan. Voyez-vous, lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, après notre baptême, après notre repentir, et par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, dès ce moment-là, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous donne toute la force dont nous avons besoin pour lutter contre Satan, pour lutter contre notre nature humaine, pour lutter contre nos doutes, pour augmenter notre foi, pour ajouter à notre foi les 7 attributs dont parle l'apôtre Pierre. Nous devons résister au Satan, à Satan et aux démons, et nous pouvons seulement résister en nous approchant de Dieu. Continuons. Oh, laissez-moi ajouter quelque chose ici peut-être. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous communique la nature de Dieu et nous donne l'occasion de mettre en pratique les fruits de l'Esprit, qui sont, je répète, Galates 5, verset 22, que je cite souvent. C'est l'apôtre Paul qui a écrit sur l'inspiration divine. Il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Je vous ai parlé, et je parle toujours, et je parlerai encore de l'amour, de la joie. Formidable. La joie sincère, car si vous connaissez la vérité, vous devez toujours avoir la joie dans votre cœur, malgré les souffrances. La joie, c'est outre les souffrances. La paix, c'est un autre esprit. C'est un autre fruit de l'Esprit de Dieu. La paix, la patience. Je viendrai à la patience dans quelques minutes. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voyez-vous. Voilà, ce sont les mêmes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce genre de caractère. Mais revenons aux attributs de la foi. Je cite cela parce que, voyez-vous, dans ce que l'apôtre Pierre a écrit, l'attribut suivant, c'est vraiment la patience. Il dit, l'apôtre Pierre écrit, « Ajoutez donc à votre tempérance, la modération, la patience. » Fantastique. La patience, voyez-vous, c'est quelque chose dont nous avons tous besoin et nous n'en avons jamais assez. Nous sommes trop impatients. Même pour l'arrivée du Christ, l'avènement du Christ, nous voulons que le Christ arrive maintenant. C'est normal, car beaucoup de gens souffrent. Mais le Christ arrivera au bon moment désigné par lui et par le Père. Un point, c'est tout. Une fois que vous avez cette compréhension, cette connaissance, cette assurance, alors attendez le retour du Christ avec patience. Dieu sait, Dieu connaît vos besoins. Que vous soyez malade ou non, Dieu connaît vos besoins. Attendez avec patience. La Bible définit la patience en disant que Dieu est patient. Si Dieu est patient, nous avons toutes les raisons du monde de l'être à notre tour. Voyez, nous devons être patients d'abord les uns envers les autres. Prenez les exemples dans une famille. Combien de fois l'homme, le mari s'énerve car la femme ferait des choses peut-être plus lentement, ou vice-versa. Ça n'a pas d'importance. Dans votre travail, dans vos rapports les uns avec les autres, vous manquez de patience. Nous manquons tous de patience. Alors, commençons donc d'abord de pratiquer la patience avec nous-mêmes. Prenez l'exemple que je vous ai donné en ce qui concerne la maladie d'un ami qui est mort. Bon, là encore, lorsque Dieu ne répond pas à nos prières, il ne faut pas perdre patience. Il y a une raison pourquoi Dieu n'agit pas comme nous voulons qu'il agisse, au moment même qu'il agisse. Oui, il y a une raison. Dans mon ministère, j'ai oint beaucoup de malades. Certains d'entre eux sont guéris automatiquement. D'autres, ça a pris plus de temps. C'est Dieu. Évidemment, ça dépend peut-être de la foi, mais ça, ce n'est pas la question principale. La question principale, la raison principale, c'est que si Dieu ne répond pas comme nous voudrions qu'il nous réponde, nous ne devons pas faiblir. Nous devons aller de l'avant et être sûrs que Dieu va nous répondre. Voilà pourquoi je répète, nous devons faire preuve de patience, chacun de nous. Mais je répète, je ne vais pas allonger cette liste, surtout la patience, parce que j'en ai parlé souvent par le passé et j'en parlerai encore. Ensuite, l'apôtre Pierre ajoute que nous devons joindre à la patience la piété. Je vous ai parlé de piété il y a quelques instants. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 6. La piété, je répète, c'est un caractère en quelque sorte religieux, c'est-à-dire que ça nous rapproche de Dieu. C'est une dévotion, une vraie dévotion absolue en Dieu. C'est un respect envers Dieu. La piété, proprement parlant, c'est l'amour dont nous faisons preuve à l'égard de notre prochain. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, dans la seconde épître de Timothée, chapitre 2, verset 2, il donne des directives, il dit, il faut prier que le Christ arrive, afin que, dit-il, nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété. Voyez-vous, en toute honnêteté, en toute bonne attitude et honnêteté. Voilà comment nous devons prier. L'apôtre Jacques définit plus loin la piété en disant que l'amour, le véritable amour, dit-il, consiste à servir, à aider et répondre aux besoins de ceux qui sont dans la nécessité. Et il cite premièrement, Jacques 1, verset 26, je n'ai pas le temps de le citer, il cite premièrement donc, en ce qui concerne les veuves, les orphelins, qui eux sont seuls, ont besoin d'aide. Ensuite, pour finir ce sermon, pour terminer, nous avons encore deux attributs qui restent. Les deux attributs, je ne dirais pas les principaux, car chaque attribut est principal, mais les deux attributs désignent l'amour. Car l'apôtre Pierre dit, à la piété dont je viens de vous parler, il faut ajouter l'amour fraternel. L'amour fraternel. De quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi l'amour fraternel? Parce que humainement parlant, l'amour a deux sens, surtout lorsque Dieu définit dans la Bible. Il aborde l'amour entre nous-mêmes. Cet amour est nécessaire pour servir Dieu, pour comprendre Dieu, pour avancer dans la bonne voie. Mais cet amour fraternel n'est pas l'amour que Dieu a en ce qui concerne en tant qu'attribut principal. Mais l'apôtre Pierre, ici, montre les deux phases de l'amour. Il montre d'abord l'amour fraternel. C'est l'amour physique. L'amour entre nous-mêmes, entre parents, entre enfants, entre amis. Cet amour est nécessaire et comme l'apôtre Jean a dit, nous devons aimer Dieu et si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer notre prochain. Comme le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Voilà, cet amour-là, c'est normal, c'est logique, c'est nécessaire. Et ça, il faut ajouter à la piété. C'est l'un des derniers attributs de la foi. Mais ce n'est pas tout, voyez-vous. Cet amour fraternel dont il est question ici, ce n'est pas tout. Il y a encore un autre amour qui est supérieur à l'amour éternel. C'est ici le septième attribut. Il y a en grec le mot philo, philos, qui définit l'amour fraternel. C'est la science de la connaissance, humainement parlant. Par exemple, philosophie, c'est l'amour en ce qui concerne les sciences, etc. Mais le dernier attribut dont parle l'apôtre Pierre dans cet épître, il parle qu'il faut ajouter à l'amour fraternel la charité. Ce mot charité n'est peut-être pas à sa place, car humainement parlant, c'est difficile de définir cet amour. La Bible, surtout la Bible Louis II que j'ai devant moi, n'a pas le mot amour, c'est le mot charité. Certaines traductions, nouvelles traductions de Second, ce mot a été remplacé par l'amour. Ici, le mot grec, c'est agapé. L'autre, c'est philos ou philo. Ici, c'est agapé. Donc, ces deux attributs, l'amour fraternel et l'amour dans le sens spirituel, sont les deux attributs qui nous sont nécessaires pour arriver au but, afin d'avoir la foi nécessaire, la foi totale, la foi irrésistible devant toute épreuve. Commencez-vous à comprendre la signification, donc, de ces sept attributs de la foi. Dieu veut que nous arrivions au but. Dieu nous donne la foi par son Saint-Esprit, mais à cette foi, nous devons faire des efforts pour joindre d'autres spécifications. Ça, c'est notre part. C'est là où la plupart d'entre nous faiblissent. Faites votre part. Car chaque attribut demande de votre part un certain effort. Chaque attribut demande des choses que vous devez faire. C'est ici où la plupart d'entre nous, nous faiblissons. Nous ne faisons pas notre part. Nous voulons que Dieu fasse tout. Non, Dieu ne fera pas tout. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Franchement, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui suit le Christ? Un exemple avant de terminer. Marc, chapitre 3, versets 31 à 35, nous lisons que la mère et les frères du Christ étaient ensemble et tout d'un coup, dans la foule, je paraphrase, quelqu'un dit au Christ, écoute, tes frères sont dehors. Et te demande. C'est normal. Le Christ est en train de s'entretenir avec certains. On dit, écoute, quelqu'un te demande. Quelle a été la réponse du Christ? Marc 3, verset 33. Le Christ répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est une bonne question si vous comprenez le sens exact. Autrement dit, une maman, une mère, dans cette nature, dans ce monde, c'est bon, c'est juste, mais le Christ parle d'un amour supérieur. Il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ensuite, verset 14, verset 34, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Voilà, ceux qui sont disciples du Christ, ceux qui suivent le Christ, ceux qui aiment le Christ, ceux qui pratiquent les attributs de la foi. Voyez-vous, mes amis, souvent lorsque nous lisons la Bible, nous ne faisons pas attention à ces précisions. Il est bon d'être chrétien lorsque nous savons que Dieu est avec nous. Il est bon d'avoir foi lorsque nous joignons à cette foi que Dieu nous donne les attributs qui demandent des efforts de notre part. Il est bon de dire que j'ai le courage lorsque vous savez que Dieu, avant tout, est toujours prêt à vous donner l'aide dont vous avez besoin. Si ces choses sont en vous, je répète, elles doivent être en vous, si ces choses sont en vous, vous aurez toujours le courage de lutter contre Satan, contre ses astuces. Notre foi est en Dieu. Mais Dieu veut que chacun de nous fasse les efforts nécessaires pour arriver au but. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas, comment dirais-je, indulgent avec vous-même dans le sens que, oh, Dieu comprend. Tâchez de comprendre Dieu vous-même. Tâchez de faire ce qu'il vous dit de faire. Si vous faites votre part, si vous voulez vraiment que Dieu vous protège, ayez ce genre de foi à laquelle vous devez joindre les 7 attributs dont parle l'apôtre Pierre. Je sais que vous arriverez, je sais que vous pouvez arriver, car Dieu qui nous a créés veut que vous puissiez arriver.